vieil homme rêvait de lion. Il rêvait de ces grands prédateurs de la savane auxquels aucun autre animal ne dérobe ses proies.
Précisément, parce que privé des jeux de lumière et du secours d'une figuration visible, parce que réduit à la seule aide de quelques indications sonores, enfin, et surtout, parce qu'accueilli par un spectateur solitaire, le théâtre radiophonique est voué d'avance à la concentration intérieure. Il ne peut exister qu'en obligeant l'auditeur à participer à des débats fictifs devenus momentanément les siens propres.
Alors, Clémy ?
To assure you that the War of the Worlds has no further significance.
Non, je peux pas. Bah parce que j'écoute Clair de Nuit sur France Culture.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est parti donc pour cette deuxième table ronde sur Transistor. Et bonjour Maë.
Bonjour Rémi. Alors, qui n'a jamais fantasmé le monde mystérieux caché derrière le quatrième mur? Qui, enfant, ne s'est jamais planqué sous sa couette, toutes lumières éteintes, l'oreille collée à un poste grésillant, volume baissé au maximum, pour écouter quelque affreuse émission? La radio, avec ses voix, ses sons, ses musiques, stimule notre imagination. À sa manière, l'intérieur du poste est une fiction pour l'auditeur, il se met en scène. C'est une bande de copains que l'on retrouve chaque jour au volant de notre voiture, c'est dans une foule déchaînée que l'on plonge avec un reporter téméraire. Finalement, on peut se dire que la radio brouille les pistes entre réalité et fiction, en atteste toute l'histoire des faux-semblants radiophoniques sur laquelle nous reviendrons lors de cette table ronde. Elle se construit, joue avec les sons, ses propres codes, les documentaires racontent des histoires. Et en cela, il y a quelque chose dans l'essence même de ce média qu'on serait tenté d'appeler fiction. C'est de ce flou, de cette image fantasmée de la radio que nous voulons parler aujourd'hui avec nos invités.
Nos invités, bonjour Irène Omeliamenko, tout d'abord.
Bonjour.
Donc depuis que vous avez commencé la radio, un petit peu par hasard, si l'on peut dire, vous avez produit de nombreuses émissions sur France Culture, avec dans les années 90, une émission fondatrice, Clair de Nuit, avec Jean Couturier. Vous abordez le son sous toutes ses facettes, qu'il s'agisse d'entretiens conventionnels ou de collages sonores plus personnels. Et après 10 ans de cette liberté, dans Clair de Nuit, vous travaillez pour plusieurs émissions de documentaires, comme Le Pays d'ici, puis Sur les docks, que vous prenez en main après quelques années, puis vous revenez au créneau nocturne que vous affectionnez avec l'Atelier de la création, puis Création On Air. Bonjour également à Juliette Voltaire, notre
Bonjour.
Deuxième invitée. Vous êtes coordinatrice éditoriale de Sainte-Aune, donc les carnets de Sainte-Aune pour la version papier, et puis le site sainteaune.fr. Vous avez entre autres publié une série d'articles sur les faux-semblants radiophoniques. Vous avez également écrit 2 essais, Le son comme arme, les usages policiers et militaires du son, et puis Contrôle, comment s'invente l'art de la manipulation sonore. Vous avez également produit l'émission L'Intempestive sur Fréquence Paris Pluriel, puis sur Radio Galère, où vous meniez des entretiens, des documentaires sur des thèmes comme la psychiatrie, les migrations, une série sur les radios libres et puis de nombreuses explorations sonores. Eh bien, c'est parti pour cette table ronde, donc pour 1 heure autour du thème de la radio comme fiction. Et je te donne la parole, Maë.
Peut-être qu'on pourrait commencer avec cette idée qui, je sais, fait déjà débat entre nous, ce qui est que notre capacité à distinguer le vrai du faux à la radio serait amoindrie par la médiation que la radio joue d'une manière très spécifique de cela. Que finalement, dans les faux-semblants, on retrouve cette capacité de la radio à utiliser le fait d'être un média uniquement sonore et privé donc de visuel pour peut-être tromper l'auditeur, le faire croire ou peut-être le faire rêver aussi. Alors je sais pas.
Mais est-ce que l'image apporte une preuve qui pourrait réfuter le son? Je suis pas sûre du tout que l'image soit plus rationnelle que le son seul en réalité. Et en fait, je penche plutôt pour l'hypothèse que la radio permet une distanciation que l'audiovisuel amoindrit. C'est-à-dire, dans l'audiovisuel, on peut être l'image, enfin, nos yeux et nos oreilles sont captés tous ensemble par le récit qui nous est fait. Dans la radio, le fait d'être concentré sur l'écoute, pour moi, nous permet d'avoir un rapport plus critique, paradoxalement, à ce qu'on va recevoir comme récit.
Moi, je partage complètement ce point de vue. Je trouve que il suffit de regarder la télévision, le cinéma, pour voir que l'image, elle nous oblige. Si je vous dis pensez à une girafe, chacun d'entre nous là à cette table va voir une girafe différente. Si je vous montre une girafe en image, vous n'avez pas de choix, c'est cette girafe-là que vous allez voir. Donc, et je pense par ailleurs que le son provoque d'autres images, donc des images qui ne sont pas forcément dans le réel. C'est-à-dire qu'on élargit considérablement notre capacité, en écoutant simplement, chacun d'entre nous crée un univers extrêmement riche. Alors après, dans votre question, il y avait cette idée du faux-semblant, hein, du fake, etc. Est-ce qu'on est plus trompé par le son que par une image? Moi, je ne pense pas plus. Je pense que c'est une question d'éducation. Tout comme on apprend aux étudiants sur les médias à vérifier leurs sources, à voir d'où vient ce qui est écrit. Avec les oreilles, on peut aussi distinguer. Alors parfois, quand c'est très bien fait, c'est compliqué. Quand une voix qui est une voix de comédien, maintenant vous ne savez pas qu'elle est une voix de comédien et qu'elle ressemble terriblement à une voix que vous pourriez croiser dans le réel, vous pouvez être un peu trompé. Mais cet appel à l'intelligence de l'auditeur, moi je trouve que c'est une chance folle. Et même si avec le son, il arrive qu'on se fasse un peu leurrer, au bout d'un temps, on repère très bien. Quand on est dans un documentaire fiction, par exemple, assez vite, moi je trouve, on arrive à repérer ce qui est de l'ordre du réel avec des guillemets et ce qui va être de l'ordre un peu fictionné.
Et c'est quelque chose, ce jeu entre ne serait-ce que le réel et la fiction, et puis la démarche de faux-semblant, d'essayer d'atteindre le moment où on attrape l'auditeur et de jouer avec cette limite, c'est quelque chose qui a traversé un petit peu l'histoire de la radio. Vous le montrez bien dans votre série. Peut-être pour commencer, du coup, oui, dans quelle mesure la radio s'est aussi développée avec ce jeu sur le faux-semblant, sur cette façon très particulière à la radio de mettre en place un rapport avec l'auditeur.
Le tout premier faux-semblant que j'ai repéré, je pense que réellement un des tout premiers, les autres sinon ne sont pas documentés, c'est celui qu'ont fait Gabriel Germinet et Pierre Cusy. En 1924, sur Radio Paris, qui était Radio Là auparavant, qui venait de se renommer Radio Paris. Et Gabriel Germinet, d'ailleurs, c'est pas son vrai nom, il s'appelle Maurice Vineau. Donc en fait, le premier faux-semblant de la radio, il est fait par un homme qui avait deux noms, sur une radio qui avait aussi deux noms, ça c'est intéressant. On va peut-être en entendre un extrait. Voilà.
Et on peut peut-être passer à l'extrait.
En sachant que ça va être un faux extrait, hein, puisque de l'original, on n'a rien. On n'a aucune trace.
Voilà, sonore. C'est un extrait de 1937, je pense, et celui de 1924 ayant été perdu et ayant créé scandale, en fait, c'est pas vraiment la diffusion.
Il a été interdit, même.
Voilà, il a été interdit. Et c'est la répétition générale qui a créé scandale, puisqu'à l'époque, pour répéter une pièce, il fallait la répéter sur des ondes qui n'étaient pas encore prises. Et c'est lors d'une répétition, justement, sur des ondes vacantes, que des radios amateurs ont capté la transmission et l'ont prise pour un véritable appel au secours. Peut-être qu'on développe après la suite.
Eh bien, alors, écoutons cet appel au secours rejoué en 37, en effet.
20h, 6 minutes, 30 secondes. Nous nous couchons sur bâbord par suite d'une voie d'eau. Impossible de naviguer. Nous allons couler dans quelques minutes. Envoyez du secours à notre peur.
Je ne peux plus articuler les mots.
Laisse-moi essayer, laisse-moi.
Allô, 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 allô. Ici Papeau, ville de Saint-Martin.
Mais non, essaye plutôt. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais plus ce que je fais, moi.
C'est fini. Vite au chaloupe. Oh, trop tard, on est fait. Oh. Au secours, madame.
We take you now to Grover's Mill, New Jersey.
Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin to paint for you a word picture of the strange scene before my eyes, but nothing out of a modern Arabian night. Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet. I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me, half buried in a vast pit. Here's Mr. Wilmot, owner of the farm here. He may have some interesting facts to add. Right. Mr. Wilmot, would you please tell the radio audience as much as you remember of this rather unusual visitor that dropped in your backyard? Step closer, please. Ladies and gentlemen, this is Mr. Wilmot.
Well, I was listening to the radio.
Closer and louder, please.
Pardon me?
Louder, please, closer.
Yes. I was listening to the radio and kind of drowsing. That professor fellow was talking about Mars, so I was half chosen and half...
Yes, Mr. Wilmot, and then what happened?
Well, as I was saying, I was listening to the radio kind of halfway.
Yes, Mr. Wilmot, and then you saw something.
Well, not first off. I heard something.
And what did you hear?
A hissing sound like this.
Donc, on vient d'entendre un extrait de Marimoto suivi de La Guerre des Mondes d'Anson Welles. Et donc, effectivement, dans ces deux faux-semblants radiophoniques, les auditeurs se sont laissés tromper, ou du moins certains. Et c'est vrai que ça a engendré certaines réactions très...
Très virulentes.
Très violentes, oui.
Mais de fait, c'est... Gabriel Germinet, il a, donc celui qui a fait Marimoto en 1924 avec Pierre Cusy, il a poursuivi ensuite la même année. En fait, il a fait un autre faux documentaire, faux reportage, tout en jouant toujours sur les codes radiophoniques qui venaient de s'instituer. Hein. La radio était un très très jeune médium. Et lors de la retransmission à la radio d'une pièce théâtrale, un des acteurs qui devait se suicider dans le scénario, se suicide réellement sur scène. Et donc le reporter en direct dit « Ah, c'est horrible, j'assiste à ça, et on entend les hurlements de... » Et suite à ça, Germinet a reçu des courriers comminatoires, « Monsieur, c'est un scandale, je vous enverrai mes témoins, enfin... » Et il fait une réponse qui est très belle, je trouve. Quelqu'un lui dit « Mais pourquoi voulez-vous tromper les gens? Pourquoi avez-vous fait ce genre de faux reportage ?» Et il répond, il faut bien voir qu'à l'époque, nous étions débutants dans l'art radiophonique et que les auditeurs aussi étaient débutants. Et je trouve ça passionnant comme réponse. Et en fait, il dit tout du rôle qu'à mon sens, portent les faux documentaires qui sont faits dans un esprit de création, pas dans un esprit de propagande ou de tromperie. C'est-à-dire qu'ils sont là pour, justement, éveiller l'oreille, rendre l'oreille critique, travailler à développer une écoute critique. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Et c'est pas un hasard si les gens se sont... Enfin, c'est pas un hasard, justement, si les gens se sont fait tromper et si, justement, ces faux documentaires qui veulent jouer ce rôle-là, aussi bien Marimoto que La Guerre des Mondes, au cœur de l'histoire, il y a la radio elle-même, quoi. Dans Marimoto, c'est la radio en tant que médium naissant qui est à l'époque encore utilisé non seulement comme centre de, enfin comme vecteur d'information centralisée, le seul usage qu'on connaît aujourd'hui, mais qui à l'époque est utilisé aussi comme un téléphone, comme une discussion de poste à poste entre des personnes. Donc d'où la confusion quoi, qui pouvait être réellement faite à l'époque. Avec on entend du Morse aussi, on entend des blancs, on entend voilà. Et pareil dans La Guerre des Mondes, c'est très frappant, notamment sur l'extrait que vous avez choisi. C'est entièrement centré sur la radio. Le microphone est rappelé sans cesse, la présence du microphone est sans cesse rappelée à l'antenne. Le dispositif radiophonique en tant que tel est sans cesse mis en scène.
Alors là, vous le dites, oui, la fiction audio se sert des codes naissants de la radio, des codes de la radio.
Elle les invente, les codes.
Il les invente, en fait, oui, des codes, mais aussi des codes de la communication par radio dans le cas de Marimoto. Par la suite, s'est développée aussi une utilisation fictionnelle des codes et même de la matière du documentaire, où la fiction s'est nourrie de la façon de procéder dans le documentaire. Vous avez travaillé, Irène Omelianenko, sur un certain nombre de docu-fictions. Comment on opère ce brouillage entre entre le docu et la fiction?
Ben, en fait, ça n'est pas si simple que ça, et c'est quelque chose que j'ai pu, enfin moi, que j'ai pu observer à Radio France, hein, du coup, d'une manière assez progressive. Je le disais tout à l'heure à Maë en arrivant que je regrettais un petit peu de ne pas vous avoir parlé de ce que je pense être le premier documentaire fiction que j'avais fait, qui se passait à Lyon, à l'hôpital du Vinatier. Moi, je suis vraiment, je suis pas là pour défendre la fiction entre guillemets. C'est-à-dire que la fiction n'est pas mon territoire. Je le connais mal. Moi, je me définis plutôt comme une documentariste. Ce qui m'intéresse, c'est le réel, c'est faire entendre des gens qu'on entend peu, rentrer dans des univers où habituellement le citoyen ne peut pas rentrer et pouvoir le faire participer à ça. Donc, je n'ai pas une fibre fiction. Et donc, arrivant à Lyon dans cet hôpital du Vinatier, arriver dans un hôpital psychiatrique, c'est jamais très simple. On sait très bien que si le personnel n'est pas très d'accord avec votre présence, vous vous faites assez vite jeter. Les patients, vous-même, vous vous sentez en abus de prise de parole quand vous arrivez. Enfin, ça n'est pas simple. Et moi, je voulais parler dans cet hôpital, entre autres, de ce qui s'était passé pendant la guerre avec les malades mentaux, dans cet hôpital comme dans tant d'autres. Hein. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'hôpital du Vinatier particulièrement. Et je ne savais pas comment arriver. Le directeur était... Voilà, m'accueillait, voulait bien que je visite l'hôpital. On voulait bien me montrer un peu les patients, que 3 patients choisis sur le volet me parlent, mais je savais qu'avec ça, j'aurais rien. Donc j'avais cherché comment faire et j'avais trouvé un petit journal d'une femme qui s'appelait Pauline D, qui racontait son parcours au Vinatier, parcours qui s'est fini de manière tragique. Et donc je suis arrivée dans cet hôpital avec ce personnage de Pauline D, qui a été... un intermédiaire pour que le médecin puisse me parler finalement. Pour lui, Pauline D, il me disait toujours « votre Pauline D », donc c'est quelqu'un qu'il n'avait pas connu. Lui, il était arrivé juste avant à la fin de la guerre, donc il n'avait pas connu non plus cette période un peu sinistre dont on allait parler. Mais avec ça, on a pu construire un vrai documentaire sur l'hôpital du Vinatier tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi l'héritage qu'il avait. Et moi, ça a été mon premier petit pas dans le mettre de la fiction dans du documentaire. Et j'étais mal à l'aise. Et à l'époque, j'en ai parlé à la radio en disant « est-ce que je peux faire ça ?» À l'époque, à Radio France, la fiction et le documentaire, c'est toujours un peu vrai aujourd'hui, même si les choses changent très très vite. La fiction, c'est d'un côté du texte écrit, du texte fixé, des comédiens. Et de l'autre côté, le documentaire, c'est on va dans le réel, on fait de la prise de son dans le réel. Et à ce moment-là, donc, on brouillait les codes, mais on brouillait les codes très doucement, c'est-à-dire avec un vrai personnage qui avait existé, des textes de Pauline qui étaient lus par une comédienne, mais qui étaient des vrais textes écrits. Mais j'avais déjà le sentiment de modifier un peu les choses, parce que je pense quand même que dans le documentaire, il y a un pacte de confiance avec l'auditeur. L'auditeur, il va écouter, il va exercer son intelligence, sa sensibilité. Il n'est pas du tout obligé, enfin moi je ne suis pas là pour faire partager mon point de vue, je suis là pour faire entendre un univers et que chacun réagisse. Et là, ce sentiment de brouillage, il commençait. Après, pour répondre un peu plus précisément à votre question, le brouillage, il a plusieurs niveaux. Il y a effectivement un brouillage comme celui-là, qui est soft, si je peux dire. Puis après, il y a carrément inventé des personnages. C'est arrivé avec l'histoire, enfin ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé, hein, un documentaire où on voulait partir sur un alpiniste dans la montagne qui était mort. Et qu'est-ce qui nous restait? Le journal de cet alpiniste qui avait survécu. Et il fallait aussi rentrer dans le documentaire. Comment est-ce qu'on allait amener nos auditeurs? Et j'ai détourné une vieille copine à moi qui s'appelle Shirley, qui est en fait graphiste, etc., pour en faire la femme qui, à l'époque, aurait pu rencontrer cet alpiniste.
On va écouter cette rencontre tout de suite.
Aujourd'hui, lundi, l'incroyable histoire de Guy Labour, le prisonnier de la montagne. Nous avons eu besoin de remonter le temps pour ce documentaire, et alors que le cadre de cette aventure hors du commun s'est déroulé près de Chamonix, c'est en banlieue parisienne que nous sommes d'abord allés avec François Test pour déranger une très vieille dame qui depuis des années était tourmentée par ce qu'elle avait vécu en 1934, non loin d'une crevasse du glacier des Nantillons.
Bonjour.
Bonjour, Shirley Smith.
Eh oui.
Bonjour.
C'est Shirley Smith.
Entrez.
C'est ici que vous vous cachez alors?
Oui. Avec mes chats.
On est content de vous rencontrer.
Oui.
Vous savez, vous êtes un des derniers témoins, je crois, de l'histoire que nous voulons raconter aujourd'hui.
C'est vrai?
Oui.
Ah, mais c'est une jolie histoire.
Oui, si on veut.
C'est dit il y a longtemps, longtemps.
C'est vrai, c'est vrai. On vous suit alors?
Oui.
Ah, il faut monter.
Il faut monter.
Bon, vous, avec vos mollets d'alpiniste, c'est pas un problème, j'imagine?
Non, je m'entraîne.
Ça vous rappelle Chamonix?
Oui, ça ramène des souvenirs, mais pour tous les jours. Asseyez-vous.
Mais écoutez, nous sommes intéressés par cette période où, dans les années 30, 40, je pense, vous étiez une de ces femmes qu'on pouvait voir à Chamonix.
Bon, du coup, comme on l'entend, effectivement, vous menez un véritable jeu d'acteur,
oui.
Vraiment. Comment vous avez construit, en fait
Alors là, j'ai expliqué à Shirley, qui s'appelle Shirley Sharoff dans la réalité, pas du tout Shirley Smith, que l'idée était d'amener nos auditeurs dans cette histoire à Chamonix. J'ai un petit tropisme à mettre les femmes en valeur, donc je voulais montrer qu'à cette époque, il y avait des femmes alpinistes déjà, donc je lui avais demandé d'incarner elle une alpiniste qui, à l'époque, serait allée à Chamonix et aurait croisé Guy Labour. C'est ce qui permettait de... Et après, ce qu'on entend là, elle improvise autant que moi. Alors moi, j'essaye de glisser vos mollets d'alpiniste, etc. Enfin, c'est quand je l'entends là, c'est un peu grosse ficelle. Hein. Mais elle réagissait complètement. Elle avait accepté d'être une femme qui avait fait de l'alpinisme dans ces années-là. Et c'était crédible, vu son âge, vu ce qu'elle avait fait. Et là, pour moi, je suis dans de la manipulation. Donc je disais, il y avait cette première solution où vous brouillez les codes, mais en utilisant des éléments vrais. Là, ce personnage, on l'a inventé toutes les deux. Il n'existait pas. Et là, ça commence à être du faux. Puis après, il y a le faux-faux, où c'est une fiction intégrale. Quand on parlait du débruiteur, dont on parlera peut-être tout à l'heure, que Juliette avait évoqué dans les pistes sur lesquelles on pouvait aller, pour moi, le débruiteur, c'est même plus du documentaire. On est dans une fiction absolue. Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Après, la question, vraiment la vraie question, c'est par rapport à nos auditeurs, c'est quand même, il faut réussir, soit à la fin, en disant c'était un docu-fiction, il faut quand même que le pacte de confiance avec l'auditeur, il ne soit pas trahi. C'est-à-dire que le fake absolu, alors sauf si on veut faire un fake, moi, il me met mal à l'aise.
Et de fait, pour avoir écouté un peu les premiers avrils radiophoniques dans les archives que conserve l'INA, certaines pièces, en fait, moi, me mettaient effectivement mal à l'aise, parce que quand j'entendais un plateau avec Noël Simsolo, ou bien il reprend tout le dispositif habituel, en fait, de l'émission, mmh. extrêmement légitimement, c'est-à-dire on est sur France Culture, sur un plateau mmh. littéraire, avec des invités prestigieux, que des hommes à l'époque, naturellement, qui s'expriment comme des critiques littéraires et qui vont nous parler de la vie d'un auteur totalement méconnu. Et c'est incroyable qu'il soit méconnu, mais n'est-ce pas? Et puis on glisse des petites piques de temps en temps, mais en fait, c'est de l'entre-soi. En fait, absolument rien n'est détectable pour l'auditrice ou l'auditeur. Et pour moi, paradoxalement, d'écouter maintenant ce genre de dispositif, pour moi, en fait, ça... C'est une sorte d'autocritique involontaire en réalité, parce que justement on dénonce la mécanique habituelle, enfin en tout cas on met en valeur la mécanique, le ronron habituel de l'émission et son caractère artificiel, même dans des émissions qui sont pas des premiers avril.
Ouais.
Après,
là, vous parlez de gens de plateau, enfin, oui. de gens qui ont l'habitude de faire des tables rondes, oui. etc. Moi, j'ai un point de vue de documentariste, donc évidemment, ça biaise un peu, quoi.
Mais oui, bien sûr. Mais c'est par rapport au fait qu'il faut donner des indices, enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit perceptible. Sinon, De fait, c'est très facile d'inventer une vie de A à Z et d'y faire croire à travers les médias. Enfin, c'est Christophe Deleu qui parle beaucoup dans son bouquin sur le documentaire. Il parle beaucoup justement de ce contrat d'écoute. Et il parle du cadre de légitimation extrêmement fort que constitue une antenne publique. Et à partir de ce moment-là, pour déconstruire ce cadre-là, il faut donner les outils à l'auditrice ou à l'auditeur pour pouvoir les déconstruire. Sinon, on peut dire n'importe quoi, et la frontière avec la tromperie est assez peu évidente. La volonté aussi d'éveiller une écoute critique n'est pas très évidente. Après, quelqu'un, par exemple, comme Emmanuel Laurentin, a joué à plusieurs reprises sur ce genre de dispositif de plateau, un plateau où, en réalité, le personnage est imaginaire. Par exemple, il y en a un, il l'a fait dans le cadre d'une semaine sur la mystification en histoire. Donc c'était une mise en abîme en fait de son sujet dans le cadre de 4 ou 5 émissions d'affilée sur ce thème-là. Et là, je trouve que c'était intéressant en fait, ça s'entendait comme un exercice pratique pertinent dans ce cadre-là quoi. Après, quand on s'amuse juste en fait à utiliser le pouvoir qu'on a à la radio, ça n'a rien de très drôle ni de très didactique en réalité.
Mais ça a tellement secoué le... Enfin, à la radio, ces aventures de fiction à l'intérieur du documentaire avaient tellement secoué les choses que quand Pierre Chevalier a créé Sur les Docs, il nous a vraiment laissé expérimenter des documentaires fiction. Mais du coup, il nous a imposé, Pierre, pardonne-moi, enfin, tu nous as conduit à bien mettre le label docu-fiction. Et quand on faisait du documentaire fiction, ça s'appelait la semaine docu-fiction, pour que précisément... nos documentaires habituels ne soient pas entachés d'un soupçon, même si après on peut discuter de comment on manipule par bien des moyens, mais pour lui c'était important que cette étiquette docu-fiction soit posée pour ne pas tromper justement.
Et justement, ce qui ressort dans vos propos à toutes les deux, c'est que ces faux-semblants radiophoniques s'appuient sur des codes en fait réels de la radio. Et peut-être qu'on peut écouter du coup des bruitages dont on a un petit peu parlé de Christophe Deleu et François Teste, qui peut-être justement se sert des codes du documentaire pour en montrer les ficelles. Et peut-être que c'est là qu'on retrouve ce pacte de confiance avec l'auditeur.
Quels sont les lieux que vous débruitez principalement?
Ça dépend, hein, j'ai un peu de tout. Bon, j'ai déjà fait des cinémas, des musées aussi. Tellement de conneries parfois qui se disent devant l'étoile que le conservateur, il n'aime pas trop. Donc il préfère nettoyer de temps en temps.
Est-ce qu'on peut débruiter un bruit d'hélicoptère?
Ouais, tout à fait.
C'est parce que là, il est très haut cet hélicoptère.
Ouais, mais c'est pas la hauteur parce qu'il a de la puissance. Donc c'est faisable. Le problème, c'est qu'il bouge beaucoup. Voilà. Alors des fois, on rate un morceau. On peut avoir une sorte de queue de son. On n'aura pas pu aspirer.
Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait là, notre Wilson. Les bruits dérangent les gens, il y en a partout et tout le temps. Ça les stresse. Ça a un effet sur le comportement. C'est pas mal vu ça. Le bruit est une bactérie, un agent infectieux qui permet d'éliminer. Il y a trop de son. Grâce au Sonovac, on peut désormais vivre en toute quiétude sonore.
Au moins, il pense pas qu'à lui, il essaye de sauver les gens.
Attendez, ça continue. Le débruiteur est un expert, il a une oreille.
C'est un peu... Les oreilles ont pas de paupières, quoi. Et ça rentre tout le temps, et c'est... Parfois, c'est lourd, quoi. Le professionnel continue à la maison. Et ça, c'est compliqué.
Quel est le son que vous détestez le plus? Là, je ne veux pas du tout être original. Je déteste les grincements, les ongles sur l'assiette, les craies sur le tableau, tout. Enfin bon.
Le son des cigales. C'est le son que je trouve le plus bête et que je vis le plus agressivement possible. Et je suis venu en Belgique, parce que je suis originaire de Marseille, en partie parce que je fuyais le son des cigales.
Un type qui rentre, grosse voix, grosse blague, etc. Donc tout s'arrête. Et, enfin, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai pensé à débruiter le mec. Voilà. Et je l'ai pas fait parce que professionnellement c'est pas possible, mais ça m'a traversé l'esprit quand même. Enfin, si je commence à faire ça, il y a plus de limite quoi.
Alors là justement, on a la partie qui se veut résolument documentaire dans le ton, et puis on a même ce moment où on interroge des gens sur les bruits qu'ils détestent, on ne sait pas si ça serait pas vraiment des bouts de documentaire insérés au milieu. Et on voit quand même cet indice apparaître lorsqu'il y a ce dialogue entre ce qui semble être des psychiatres sur le fameux débruiteur.
mais le sujet est farfelu. Oui. C'est-à-dire d'emblée, de toute façon, enfin, si vous réfléchissez deux secondes, débruité, ça. Alors après, tout est construit effectivement comme un documentaire classique.
On se laisse presque prendre à l'écoute.
Mais pour moi, on est quand même, on est dans une fiction totale, voilà, et très réussie.
Oui. D'ailleurs, c'est assez amusant par rapport. Au fait que sur Radio France, en fait, c'est présenté de manière explicite quand c'est un docu-fiction, ou bien il y a des excuses à se posteriori sur la page de l'émission, comme ça avait été le cas dans Mégahertz quand ils avaient fait Radio Panique, des choses comme ça. Il y a la volonté d'expliciter, en fait. Mais là, ça, c'est une production de la CSR, des bruitages. Et de mémoire, c'est pas présenté explicitement
non, pas du
comme
tout.
Une fiction.
Non, c'est vrai.
Et en fait, les plateformes web qui diffusent essentiellement sur le web comme médium premier, Arte Radio également, en fait...
Ne s'embarrassent pas de...
Ben, et elles ont à jouer différemment, en fait, sur est-ce qu'on dévoile, est-ce qu'on dévoile pas. En fait, le dévoiler d'emblée, ben, on perd, parce que la radio a quand même ce truc que si on tombe dans l'émission comme ça, sur la FM, bon, on va s'interroger, on va se demander ce qui se passe et tout. Sur le web, non, on va nécessairement chercher l'émission. Il y a un acte volontaire au départ, donc... Comment détourner cet acte et du coup réussir à quand même déjouer l'oreille. Arte Radio a pas mal joué avec ça. Là récemment, ils ont plus mis de manière un peu plus explicite quand c'est de la fiction ou pas. Mais toute leur série sur les écolos exaspérants là, qui étaient donneurs de leçons, elle est vraiment excellente. Et c'était pas présenté vraiment comme du docu-fiction. Et là, ce qui est intéressant dans le travail de Deleu et Test, c'est, et qu'ils ont beaucoup mené dans tout leur travail de docu-fiction, c'est ce questionnement de l'expertise. C'est ça vraiment qui est au cœur, en fait, eux, de leur dispositif de docu-fiction. C'est qu'est-ce qui fait expertise à un moment donné, à quel moment on va croire l'expertise, à quel moment elle va être suspicieuse. Ça rejoint en partie le travail qu'avait pu faire Gregory Whitehead dans les années 90, qui lui mettait en scène... Alors pareil, c'était assez immédiatement audible, en fait, que c'était des fausses conversations scientifiques, mais surtout, généralement, il mettait un peu de musique électroacoustique dessous. Enfin, il faisait un mix avec la parole et tout ça. C'était assez produit, quoi. Mais le ton des personnes qui intervenaient, le dispositif de plateau, etc., tout ça était extrêmement sérieux. Et je trouve que ça va questionner même à vraiment un niveau philosophique, métaphysique, quoi. Qu'est-ce qu'on va croire de ce qu'on nous dit du réel ? À quel moment telle personne est jugée fiable pour nous dire quelque chose du réel, pour nous dire du vrai ? Et en fait, cette écoute-là, une fois qu'on commence à la voir... c'est difficile de la perdre, en fait. Et après, les matinales de France Inter ou de France Culture, après, on les entend comme des sortes de sommets de faux documentaires, en réalité, de faux semblants. Et ça permet d'écouter extrêmement différemment la radio dans son ensemble. Et je trouve que ça donne beaucoup d'outils, en fait, pour appréhender la radio comme média de masse, quoi.
Oui, en fait, de débruiter, ça décode. Ça décode beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dit Christophe Deleu, derrière ça, il s'est lancé sur une série de fiction, carrément. Donc, lui-même a été contaminé par le plaisir de la fiction, je pense. Enfin, il a fait toute une série de...
Les petites pastilles sur la fin du monde, oui.
Voilà, exactement.
Et qui sont, d'ailleurs, jouées de manière très réaliste. Toujours, on arrive au milieu de la scène... on est pris au milieu, en fait, d'une histoire personnelle qui... En fait, on sent, en fait, tout cet apport que le docu-fiction a pu avoir pour lui, que le documentaire.
Ah ben, je pense qu'il a été... là, la fiction a été plus forte que le documentaire pour lui, et il a mis les pieds dans la fiction avec grand plaisir.
Avec
et
Marie
alors,
Langer,
moi, problème, il me parle de cette série, et moi, je ne peux pas le diffuser, parce que c'est de la fiction, avec des comédiens, avec du texte écrit en partie et improvisé, mais je ne peux pas le diffuser. À l'heure actuelle, à Radio France, dans le cadre où on est, là, le mur documentaire-fiction, il est quand même monté, quoi.
Oui, je crois que ça s'est passé par Ouidir, sur la RTBF, qui se présente comme une émission de création radiophonique de manière générale, où il n'y a pas cette partition qui diffuse aussi bien des fictions que du docu, quoi. Ouais.
Alors, à l'inverse, la matière fictionnelle peut être utilisée, la matière documentaire justement peut être utilisée de façon résolument amusé, on va dire, par, par des fictions. On, je pense de façon un peu plus concrète à ce que pouvoir faire la méga combi régulièrement sur, entre autres, cette, cette pastille que vous citez dans votre série sur les faux-semblants, où, où ils intercalent des questions sur les migrants et des réponses qui se rapportent manifestement aux extraterrestres.
Ah oui, on c'est fabuleux ce truc.
C'est une espèce de on sent, enfin, c'est évident que c'est une pure blague, mais, ouais. Mais
non,
on,
mais ça dit beaucoup, hein. Mais, politiquement,
mais ça en dit très très long,
hein,
voilà. Ouais. La méga combi qui se fait justement un plaisir, ben, on parlait des matinales, qui se fait un plaisir régulièrement de rejouer, de surjouer de façon un peu outrancière les codes de ces émissions. Grand public, souvent les émissions du service public, pas seulement, et qui, y compris en reprenant les jingles, en exagérant seulement un tout petit peu le ton, et le passage à la fiction bah, permet finalement de donner une, oui, une grande lisibilité des codes. Bah, peut-être sur ça, on peut commencer par quelques extraits, trois extraits plus exactement. On a un petit bout de méga-combi qui sera éloquent. Un morceau de la pièce Franche Info de Lef Dup que vous aviez produit dans l'atelier de la création, et puis un petit morceau de À votre écoute, coûte que coûte, qui là avait repris les codes et avait fait un petit peu scandale aussi en son temps.
Sur Inter,
oui.
Alain Carla, Olivier Torchon, les sales sur RMQ.
04 78 RMQ.fr, vous réagissez sur le compte thriller de l'émission et nous prenons tout de suite un autre auditeur à l'antenne.
Oui, tout à fait, nous avons Serge en ligne. Serge qui, je crois, veut nous parler fiscalité.
Absolument.
Bonsoir Serge.
Salut les sales gueules. 120 euros, j'étais sur la voie express à la sortie de Lannion. Alors ok, j'appuyais un peu, mais j'avais des clients à livrer, moi. De toute façon, en France, on nous empêche de travailler dans ce putain
non,
de pays.
En plus, en Bretagne, on est limité à 110.
Alors moi, j'ai vu rouge, je vous le dis.
Comme les bonnets.
Et le radar, je l'ai cramé, il n'y a plus rien maintenant.
Bien, c'est bien ça.
Ouais, c'est
attendez,
ça
attendez les sales gueules, on n'y comprend plus rien là.
Alors Gérard, peut-être une réaction?
Moi je dis, il faut tout défoncer, les radars, les portiques écotaxes, la taxe d'habitation, les profs, l'ISF. Non, parce que sinon on va où comme ça? Vous voulez Marine Le Pen, c'est ça?
Bah pourquoi pas, hein, je vous le demande, pourquoi pas?
Bah pourquoi pas, ouais, je vous le demande, pourquoi pas.
Vous écoutez Franche Info, il est 7h. Un bug informatique a réparti de façon irréversible l'intégralité des richesses mondiales placées sur tous les comptes de toutes les banques de la planète en autant de parts égales qu'il y a d'humains, en faisant même bénéficier les personnes ne disposant pas de compte en banque de versements automatiques en liquide. La pauvreté semble donc éradiquée. Nous retrouvons Vincent Bezeau en direct de la Bourse.
La Bourse avec Pastiche 51, solution en canular d'entreprise.
D'accord, il est arabe.
Voilà, et mes parents refusent de le voir. Mmh. Et surtout, on a projeté de se marier et ils veulent pas en entendre parler. Et même, ils m'ont dit que si je l'épousais, ils me renieront.
Oui, ils me renieraient, oui.
Oui, et qu'ils me considéreraient plus comme leur fille.
D'accord, ouais. Alors, attendez, Chloé. Chloé, avant d'en arriver au mariage, est-ce que vous êtes sûre qu'il a épuisé tous les recours légaux?
Pour?
Pour l'obtention de ces papiers?
Ah non, mais...
Non, parce que vous savez, nous, on n'a pas le droit de vous aider à organiser un acte qui est interdit par la loi, hein.
Ah non, mais c'est pas du tout...
Non, mais je vous rappelle quand même que le mariage blanc est un délit en France.
Ah non, mais c'est pas du tout ça. On s'aime, ils m'aiment et on veut se marier par amour. Et mes parents veulent pas à cause des origines de Karim.
Vous jugez beaucoup, Chloé, non? Vous jugez vite? Vous jugez très vite?
Ah non, non, je pense qu'ils sont foncièrement racistes. Et franchement, je pouvais pas m'en douter. Parce qu'ils ont toujours été très corrects avec ma nounou Radija qui était algérienne.
Ah, vous aviez une nounou arabe?
Oui, algérienne.
Oui, alors d'accord. Chloé, vous auriez peut-être dû commencer par là. Vous leur en voulez à ce point?
Bon, alors, je pense que dans ces trois extraits, on voit effectivement, du coup, bah, tout le faux-semblant, le canular qui joue avec donc, les codes de la radio. Mais justement, ce que je trouve intéressant ici, et peut-être qu'on peut essayer de discuter, c'est qu'il joue finalement avec des codes qui créent une sorte de, qui forment une sorte de mythologie de la radio qu'on a tous, en fait, en nous, avec ces émissions dont on reconnaît les intonations, celles où on va interroger un auditeur qui appelle ou... comme vous me parliez précédemment, ce générique de Franche Info qui reprend un générique qu'on connaît, mais en le changeant un petit peu. Et finalement, ça montre qu'on a une mythologie de la radio et qu'il y a quelque chose qui est déjà potentiellement fictionnel, en fait, dans ce média.
Oui, mais je pense que ça fait prendre conscience. Enfin, immédiatement, on a une sorte de... Enfin, le pas en arrière est presque physique, quoi. Tout à coup, on s'arrête et on se dit, tiens, mais il y a un truc... Tiens, quelque chose qu'on acceptait comme une évidence qui, tout à coup, là, nous est montré vraiment la mécanique est mise à nu, quoi. Et il y a une dimension d'exutoire aussi qu'on sent bien, bah, aussi bien dans le travail de la méga combi, quoi. C'est la revanche du public, on va dire, d'un certain côté, puisque là, c'est Radio Canu qui répond à RMC. Mais... il y a le fait de pouvoir répondre justement à ces codes-là en les tournant en dérision, quoi. C'est-à-dire de dire non, c'est pas un état naturel des choses, c'est quelque chose qui est éminemment construit et qui va complètement influer sur notre représentation du réel. Mais oui, de fait, il y a cette mythologie de la radio, c'est très bien dit, qu'on ne perçoit pas nécessairement quand on va l'écouter au quotidien, quand on est dans une routine. Et ce type de faux-semblant parodique va permettre de prendre conscience de la routine et peut-être après de l'écouter un petit peu différemment.
Et puis cette radio mise à nu, je trouve que ça fait du bien. Parce qu'en fait, alors peut-être parce que je suis plus sur France Culture, on a peu d'occasions de faire de l'humour, de rire, de... Et de s'attaquer à des problèmes par d'autres biais que du... Ah, pardon, je ne sais pas parler dans un micro. Et moi, je trouve que ça a une fonction cathartique extrêmement puissante, mais aussi pour les auditeurs. Enfin, pour les auditeurs autant que pour ceux qui font l'émission. Et c'est aussi une façon de penser le monde qui est absolument passionnante. Enfin, on peut vraiment, comme ces trois exemples, en fait, déconstruire les choses et d'un seul coup se mettre à penser un tout petit peu autrement. Et je pense que c'est très précieux. Mais là, il n'y a aucun doute. Quand on entend à aucune de ces émissions, on sait qu'on est dans une parodie.
La dernière, à votre écoute, coup de coude sur France Inter.
Oui, je sais que beaucoup de gens ont été dupes.
Voilà, ça, le mystère a perduré longtemps. Oui. Même, il y avait eu un premier article des Inrock assez peu de temps après la sortie du premier numéro. On dirait que c'est un canular, il se pourrait que c'en soit un. Ils étaient très prudents. Et puis bon, après, rapidement, il s'est avéré que c'en était un. Mais.
C'était le cinquième, je crois, donc c'était déjà gros dès le départ.
Il y a des gens qui étaient vraiment furieux.
C'est dérangeant aussi, parce que ça veut dire qu'il y a un abus de confiance, quoi.
Et le dernier était vraiment très drôle, ils ont très bien fait leur pirouette de fin, parce que leur pirouette de fin, c'était qu'en fait, eux-mêmes étaient des acteurs qui avaient usurpé le nom du vrai Philippe et de la vraie Margaret de Beaulieu, et que de toute façon, tous les gens qui avaient été invités sur les antennes depuis le début, Benoît Hamon, Cécile Duflo, étaient des actrices et des acteurs qui jouaient le rôle.
Et voilà. Oui, c'était la Miss Vachkiri, quoi, en abîme total, oui.
Et de fait, derrière ça, il y a un truc beaucoup plus... il y a un truc très intéressant qui dit que la radio au quotidien, la radio qui n'est pas de création, est tout aussi montée, construite qu'une fiction. Et ça rejoint... Je vous avais envoyé une citation là, dans la préparation de ce plateau d'Hélène Thorington, qui est une artiste états-unienne qui a maintenant 90 ans, et qui a parlé dans un petit bouquin qui est récemment paru, qui est récemment paru aux éditions Van Dieren en Suisse, qui parle en fait de son rapport au bruit.
On a là la citation d'ailleurs, lire éventuellement. C'est...
Oui.
L'utilisation du bruit dans mes productions radio et audio est délibérée. Je n'accepte pas les mauvaises coupes quand c'est possible. Et je n'inclus pas non plus dans une ambiance qui a par ailleurs été enregistrée avec soin le son du vent frappant le microphone. Je fais tout autant attention au bruit non désiré que n'importe quel autre producteur soigneux. En même temps, j'enregistre le bruit des machines, les clics de mon enregistreur à cassette, la rotation de la bande. Je passe un temps fou à créer des problèmes électriques, à enregistrer des bruits parasites et à essayer de contrôler le feedback afin qu'il sonne non seulement comme un Larsen, mais qu'il soit aussi intéressant. Je planifie soigneusement son utilisation. J'attire l'attention sur le son du travail en utilisant le son du travail pour créer mon œuvre. C'est une part du sens que je veux transmettre, et c'est aussi simple que cela, attirer l'attention sur le travail et donc sur la fiction que je crée et sur ma manière de créer. En tant qu'auditeur, nous devons savoir que la radio, des bulletins d'information aux compositions les plus complexes et les plus subtiles, est une fiction. On ne devrait pas nous faire croire que ce n'est pas le cas, ou si, en effet, le travail est si bon qu'on suspend provisoirement notre incrédulité. Et en tant que productrice, c'est évidemment ce à quoi j'aspire, nous devrions au moins comprendre que d'une certaine manière, on nous a eu, que l'événement n'est pas naturel.
Voilà, je trouve que c'est une citation vraiment magnifique, quoi. et son travail d'ailleurs, elle a mis tout à disposition en ligne sur archive.org. Et c'est assez passionnant, en fait, son travail du son. Et le fait que la radio, en fait, au-delà de la radio, toute représentation médiatique est une fiction, c'est précisément ce que les matinaliers vont pas vouloir montrer, et ce que les gens qui font du docu-fiction vont, au contraire, eux, essayer de mettre en valeur, en fait. Et du coup, le docu-fiction... Moi, la première fois que j'en ai parlé à des gens qui connaissaient absolument pas, ils me disaient « mais ils font des fake news ». Je disais « mais c'est précisément l'inverse de la fake news, en fait, le docu-fiction. Ça va dévoiler la mécanique, et ça va venir vous mettre la puce à l'oreille, ça va venir vous informer, en fait, du fait que la diffusion est un rapport de pouvoir, et vous redonner, en fait, des outils à vous dans ce rapport de pouvoir-là ».
Vous disiez tout à l'heure justement que ça avait un côté qui était presque un exutoire, en fait, où on est content, en fait, parce qu'on va mettre en scène ce fantasme qu'on a de ces voix, de ces génériques qui nous... En fait, ça nous fait plaisir aussi de les entendre comme ça et de se laisser aller à montrer toute cette mise en scène aussi. Je ne sais pas si on avait préparé un petit medley, un peu des génériques, justement, toutes ces choses qui fondent notre imaginaire.
Alors du coup, on l'a pas, mais par contre, on l'a intégré au générique.
Mais on va chanter en direct. Mais
justement, en fait, le fait qu'à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a, les codes dont on aime à se rire, et puis il y a aussi tous ceux qu'on aime à reconnaître lorsque, enfin, ça nous est tous arrivé d'écouter la radio et d'un coup se dire, mais cette musique, c'est le générique de truc, et de se rendre compte aussi qu'on a cette affection pour certaines ambiances et certains animateurs.
Bah, le générique des séries.
Comme,
hein, par exemple.
Oui, voilà. Comme on aurait de l'affection pour un personnage de fiction, justement, et un univers fictionnel.
Mais de fait, on a un rapport qui est très complexe à la radio, et on peut avoir de la nostalgie, de l'affection pour des émissions que, rétrospectivement, on va se dire, bon, j'écoutais vraiment n'importe quoi à l'époque. Mmh. Mais en fait, on garde ce rapport très affectif, et ça nous a nourris à l'époque d'une certaine manière. Et je pense que le rapport de mettre en évidence, effectivement, ce lien un peu magique avec la radio, c'est pas seulement, en fait, pour déconstruire, pour avoir une approche ultra rationnelle de dire qu'est-ce qu'on a pu être bête d'y croire, ou bien qu'est-ce qu'on a pu être bête d'avoir du sentiment par rapport juste à un jingle, etc. En fait, ça relève notre rapport à la radio, à l'imaginaire radiophonique, à l'imaginaire sonore et médiatique, de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus riche.
Et je pense que, par ailleurs, ça... moi, il m'arrive, parce qu'on a des rediffusions à faire de temps en temps, donc de replonger dans des émissions d'il y a 30, 40 ans. Et en fait, parfois, je me dis, mais le rythme, c'est long, etc. Mais en fait, c'est aussi la fiction d'une époque. Nous-mêmes, notre époque, on la fictionne à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on vous dit, c'est temps de cerveau disponible très court, il faut faire des séquences courtes, tadadidada, on parle beaucoup plus vite. Enfin, il y a tout. Et quand on écoute des nuits magnétiques, il y en a qui sont exceptionnels, puis il y en a d'autres où vous avez un intervenant qui, pendant 20 minutes, tourne autour du pot pour vous dire quelque chose. Moi, ça me parle, ça a un charme, parce que je l'ai faite, cette radio-là. Mais aujourd'hui, on ne ferait plus du tout comme ça. Donc, il y a aussi, on est aussi fabriqué par la fiction de l'époque et par la fiction du moment où on est.
Ben là, récemment, dans Les Chemins de la philosophie, il y avait cette émission il y a une série de 4 émissions autour de la philosophie du son. Et la deuxième était avec autour de Roland Barthes et de la rêverie sonore. Et le commentateur qui intervient, je me souviens plus son nom, désolé, on entend un extrait de la voix de Roland Barthes et puis il parle, en fait. Le commentateur dit, on reconnaît très bien cette voix chevrotante de la radio d'avant les années 50, on va dire, qu'on pourrait jamais reproduire aujourd'hui, qui paraîtrait totalement ridicule. Et aujourd'hui, en fait, on a aussi des codes radiophoniques qui seront très audibles et qui paraîtront ridicules.
Dans 40 ans,
comment peut-on parler comme ça ? Enfin, les gens à l'époque parlaient vraiment bizarrement, ou bien. Et en fait, il en parle comme d'un élément de distinction qui marque, en fait, une certaine rhétorique dans la voix même, dans l'approche même de la voix à la radio.
Finalement, effectivement, cette rhétorique, elle est nécessaire à l'exercice de la radio. Et peut-être qu'on peut se poser un peu la question, justement, c'est en quoi le brouillage, justement, entre vérité et fiction, notamment dans l'exercice du documentaire, Et cette nécessaire mise en scène un peu du document, enfin, en quoi la mise en scène justement du documentaire dans sa construction peut être nécessaire pour donner peut-être plus d'impact au sujet dont on veut parler.
Et pour raconter finalement, pour la dimension narrative du documentaire, là on a un extrait aussi là-dessus peut-être.
Oui. Enfin, oui. Peut-être rapidement avant d'entendre votre extrait, mettre en scène. Vous dites, ça veut dire par exemple raccourcir un temps d'entretien, accoler avec un bruit qui n'était peut-être pas à ce moment-là, mais qu'on a pris après. Et effectivement, ça, disons qu'on pourrait appeler ça la composition ou la construction du documentaire. Ça n'est pas du même ordre que de la fiction quand même. Mais effectivement, la nécessité de composer, quand vous avez enregistré quelqu'un, vous avez un devoir de fidélité par rapport à cette personne. Vous savez très bien que vous avez fait un entretien d'une heure et qu'en fait, sa place dans le documentaire va être que de 10 minutes, par exemple. Mais qu'il faut quand même que cette place soit juste. Et du coup, effectivement, vous manipulez, vous coupez, mais c'est avec un besoin d'authenticité et de respect, qui n'est pas de l'ordre de mettre en scène et de mettre des... Enfin bon, on va écouter ce que vous voulez nous faire entendre.
Mais oui, mais justement, parce que... Alors c'est un extrait de La Ligne Fantôme de Laurent Polleret et Céline Duchesnay que vous avez diffusé sur Création NR. Et où finalement, le fait que les choses soient racontées, nous, outre le fait qu'on entend ce qui se passe, finalement, on se retrouve même dans l'ambiance, entre guillemets, de ce voyage qu'on va avoir.
Je passe d'abord en métro pour voir l'embranchement, le raccordement qui peut mener à cette station. J'observe que le raccordement est dans un tournant, que le tunnel tourne fortement à droite. Le métro doit ralentir. Passe vraiment très lentement à l'endroit du raccordement et je décide de sauter de la cabine arrière d'un métro en circulation avec des voyageurs. Donc je fais un tour de plus de cette ligne, je m'introduis dans une cabine à l'arrière et quand le métro arrive dans ce fameux tournant, j'ai la porte latérale du conducteur qui est ouverte et je saute au niveau du raccordement. Et j'avance dans le tunnel. Un tunnel assez long, en courbe. J'avance sur les planches en bois, repère le troisième rail sous tension, où court 750 volts. Je vois une rame blanche et verte, garée dans une station, une demi-station. Je monte les trois petites marches en fer et je suis sur le quai de la station Axo. C'est une demi-station. Un quai, une voie, un quai avec une voûte, sans issue, aucune issue extérieure. On arrive et on repart par le tunnel. Seul. Personne ne vient jamais ici, à part quelques agents de la RATP. Le métro est là, sous tension. Et ce petit bruit. Parfois, les moteurs se réveillent. J'ai l'impression de toucher quelque chose de précieux. Seul.
Bah, tout est composé, mais on y est encore bien mieux que si on avait suivi le déplacement de celui qu'on aimerait appeler un personnage, finalement, dans cette station de métro.
Là, c'est Laurent Polleret. Il est à la fois au moment de la prise de son, et puis en même temps, il est là en tant que narrateur. Et donc, ce texte qu'il a écrit est fidèle à ce qu'il a vécu, en fait. Et il est construit pour nous amener dans toutes ces stations fantômes du métro parisien, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs stations qui ont été fermées après-guerre, notamment, et qui n'ont jamais été réouvertes. Mais donc, on a tout un réseau souterrain mystérieux dans lequel il est allé. Et c'est quelque chose qu'on va continuer avec Gilles Mardi-Rossian, là, qui a en projet un documentaire qui s'appelle Urbex. Il est allé avec Matty Wynn dans des endroits souterrains interdits. Et alors, je ne sais pas du tout comment il va s'en sortir. Justement, est-ce qu'il va nous raconter les choses? Est-ce qu'on va entendre ce qui se passe? Enfin, je pense qu'on va être complètement immergés. Ils ont enregistré, en plus, ils ont fait bien sûr de la stéréo, mais aussi du binaural. Parce qu'il y a aussi
Alors ça, c'est quelque chose qui modifie les documentaires à l'heure actuelle, c'est la prise de son, les possibilités de prise de son, en binaural d'une part. On est un peu condamné à écouter au casque, mais je trouve que d'un seul coup, on écoute autrement. Et puis aussi, même les propositions qu'on peut faire en multicanal, on fait du cinéma pour les oreilles à la maison de la radio. Et d'un seul coup, les œuvres documentaires, elles nous travaillent autrement. Moi, avoir des sons qui arrivent derrière moi ou sur les côtés, mon rapport au réel, il est modifié. Et ça, c'est dans ce qui se passe à l'heure actuelle qui modifie et qui fictionne probablement le documentaire aussi.
Oui, là, je suis tout à fait d'accord. Cet extrait, il fait vraiment bien entendre que la fiction, elle n'est pas seulement dans le montage, elle est présente dès l'enregistrement, en fait. Mm. Le simple fait d'arriver quelque part et d'écouter, même à oreille nue, on est déjà en train de se créer sa propre représentation de l'espace dans lequel on se trouve. Ouais. Si on place un micro quelque part... On a encore un autre niveau de subjectivité. Et après, à partir de l'enregistrement que ce micro-là, avec ce matériel-là précis, va faire, on va... voilà. Et ça donne très bien à entendre, quoi, le caractère... le caractère subjectif et fictionnel qui s'entremêle, quoi, de l'enregistrement lui-même.
Et je pense qu'on éduque nos oreilles. On a parlé de l'écoute critique... mentale, on va dire, ou de réflexion, mais il y a aussi l'écoute de nos oreilles, notre capacité à utiliser nos oreilles qui, moi je pense que maintenant on est en train de muscler nos oreilles et on va avoir des nouvelles capacités, et je suis même quasiment sûre va bien y avoir quelques médecins qui vont nous faire ça pour voir comment au niveau du cerveau on a des nouvelles liaisons qui se font avec ces nouvelles écoutes au casque, ces écoutes en binaural et ces écoutes en multicanal. On est en train de, l'homme modifié, il va être aussi modifié par notre écoute.
Et justement, ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette composition, c'est que la composition du documentaire va être subjective, mais en fait, finalement, notre écoute dans la vie de tous les jours, peut-être qu'elle est aussi subjective, et que de toute façon, quand on écoute, on construit, on compose aussi, on prend des sons et on n'en retient que quelques-uns. Et justement, vous évoquiez les chemins de la philosophie qui, la semaine dernière, je crois, ont fait... toute une série sur...
Oui, avec Daniel D. Avec,
enfin, voilà.
Alors justement, on a quelques mots de Daniel D. C'est parfait. Sur la première émission de cette série, donc de lundi dernier dans Les Chemins de la Philosophie. Non.
Ce n'est pas lui.
Je passe d'abord en
non.
métro.
Le 5B.
5B. Petit bug.
Celui-là.
Mais non, c'est un jeu, en fait.
Bon, alors, faut croire qu'on n'aura pas Daniel D. Tant pis, mais qui justement nous dit que
l'écoute est subjective.
Nous dit que voilà, l'écoute est de fait subjective et que notre rapport au son est déjà un rapport qui consiste à trier. Finalement, peut-être que l'écoute du documentaire peut nous éduquer à ça et peut-être nous permettre de se rendre compte de ce qui, dans notre écoute, même en dehors de la radio, a quelque chose finalement d'un rapport fictionnel qui serait un rapport fictionnel au son.
Bien sûr. Et puis alors sortons de la radio, parlons des balades sonores. On a quand même plusieurs personnes à l'heure actuelle qui proposent dans les villes des balades sonores, des points d'écoute, et c'est un rapport justement à notre écoute qui est complètement modifié.
C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est marrant ce truc de l'écoute subjective, l'écoute singulière, parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup, mais plutôt sur l'autre aspect de mon travail comme chercheuse indépendante sur les usages sociaux et politiques du son, sur le développement d'un urbanisme sonore, c'est-à-dire de son en ville qui vise à orienter nos comportements. Et en fait, une partie de ces sons, par exemple la musique d'ambiance, vont complètement échouer. Et précisément parce qu'ils ont une visée industrielle. Ils veulent jouer sur l'écoute de façon industrielle.
Sur les masses.
comme si notre écoute était industrielle, mais elle ne l'est pas. Mmh. Et déjà, elle ne l'est pas de facto. Et je pense qu'il faut toujours travailler à la rendre de plus en plus singulière, justement, pour qu'on puisse se déprendre de ce genre de dispositif de contrôle. Même la simple écoute d'un morceau de musique, c'est pas seulement l'écoute en temps réel, en fait, c'est que l'écoute va éveiller en nous des souvenirs. L'écoute d'un morceau de musique va avoir un impact différent sur nous à tel ou tel moment de notre vie, même à tel ou tel moment de la journée, en fait. C'est éminemment complexe, la manière dont on reçoit les sons, et ce que ça va effectivement engager chez nous à l'intérieur.
Bon, eh bien, à 14h59,
on va arriver la relève, là.
Oui. Bon, peut-être pour conclure rapidement, on peut dire que effectivement, la frontière entre réalité et fiction à la radio est souvent floue. On a parlé des codes radiophoniques rejoués dans les canulars et fictions du poste, mais aussi de cette mise en scène, des émissions, compositions, des documentaires qui éveillent l'imagination de l'auditeur. Un brouillage finalement peut-être nécessaire afin de guider notre écoute et de l'éduquer. Finalement, il y a quelque chose à la radio, dans ce média sonore, d'incroyablement propice à l'imagination et à la fiction. Et je ne résisterai pas à l'envie de vous lire deux citations extraites de l'ouvrage Paysages sonores par Murray Schafer. Donc la première dit que l'œil projette vers le dehors, l'oreille attire au dedans, elle absorbe la formation. Et la deuxième dit que « entendre est une manière de toucher à distance et l'intimité s'élargit au social lorsque plusieurs personnes se réunissent pour écouter ensemble ». Et ça montre que finalement, la radio qui passe par l'écoute possède vraiment quelque chose de particulier et en joue d'ailleurs beaucoup.
Merci beaucoup Juliette Volclair, Irène Nomelianenko pour être venue aujourd'hui
Rémi
nous parler de la fiction donc à la radio. Et puis merci Maï.
Merci Rémi.
Alors, Félix, s'il te plaît, en régie, on va pas squeezer quand même les deux brèves de François René. Je voudrais un jingle de Flash Info, s'il te plaît. Les ficelles, la mécanique, tout ce qu'on vient de dire.
Au Brésil, Lula a passé ses... C'est bon, hein ?
Tu m'entends ?
Donc je redis, au Brésil, Lula a passé ses premières nuits en prison. Il avait été condamné en janvier à purger une peine de 12 ans et un mois d'enfermement pour des faits de corruption qu'il a toujours nié. Cette peine a ensuite été confirmée le 4 avril, et ce, à 6 mois d'élection présidentielle dont il était donné favori. Les bagarres entre les pros et les anti-Lula auront émaillé les mobilisations de ces derniers jours. Difficile en tout cas de deviner l'impact que ce choc provoquera sur la destinée du parti luliste, déjà durement touché, et plus largement sur la destinée du pays. Manif des avocats, aujourd'hui a lieu à Paris une manifestation nationale et unitaire des avocats, magistrats et greffiers contre la loi de programmation de la justice. Malgré les concessions obtenues ces derniers jours par les avocats, la réforme de la justice continue d'inquiéter. On craint notamment le déclin d'une justice de proximité. Et enfin, université, la mobilisation dans les universités continue. À Nanterre notamment, l'intervention des CRS lundi a mis le feu aux poudres. Une assemblée générale hier a voté le blocage reconductible de la fac. Près d'une quinzaine d'universités voient certains de leurs sites bloqués dans toute la France. À Lyon, c'est l'université de Lyon 2 qui bouge avec le blocage ce matin du site de Bron. Et c'est tout pour ce Flash Info.
Et merci, il est 15h passé sur Transistor. C'est l'heure d'En Spectateur, votre émission de critique de spectacle.